Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Le jeudi avant le dimanche de Pâques, la chrétienté célèbre le jour où Jésus, entouré de ses 12 apôtres, fait l'offrande de sa personne à travers le pain et le vin. L'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, c'est en fait l'instauration par Jésus de ce qui va devenir le cœur de la messe et le soutien de la foi de tous les baptisés. C'est la première communion de l'Église. Les apôtres, sur le moment, ne vont peut-être pas tout comprendre de ce que leur lègue Jésus. Qu'aurions-nous compris à leur place? C'est ce que nous allons voir avec mon invitée de ce jour, Anne-Marie Aïtsé. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Marie-Madeleine.
Merci d'être fidèle, toujours et encore. C'est un tableau de Philippe de Champaigne, peintre du XVIIe siècle français, que vous nous proposez aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, si vous voulez nous écouter, en ayant l'image sous les yeux, tapez la scène par Champaigne, C-H-A-M-P-A-I-G-N-E, et vous trouverez facilement cette œuvre. Alors, Philippe de Champaigne est un grand peintre français, certes, mais il est né à Bruxelles en 1602 et il est mort à Paris en 1674. À 20 ans, il travaille déjà pour son propre compte. Il collabore à la décoration du Palais du Luxembourg avec l'autre grand peintre Nicolas Poussin, en particulier des tableaux dans la chambre de la reine-mère Marie de Médicis, veuve d'Henri IV et mère de Louis XIII. D'ailleurs, à partir de 1628, Philippe de Champaigne a 26 ans, il entre au service de la famille royale et décore le palais du Luxembourg en compagnie de Simon Vouet, Pierre-Paul Rubens et Nicolas Poussin. Alors Philippe de Champaigne est le seul peintre autorisé à peindre le cardinal de Richelieu en habit de cardinal. Il va le représenter 11 fois. Et Champaigne est un des membres fondateurs de l'Académie royale de peinture et de sculpture, créée le 1er février 1648. Il se rapproche des milieux jansénistes. Il devient le peintre de l'abbaye de Port-Royal de Paris, puis de Port-Royal des Champs. Et sa fille, Catherine, y sera religieuse sous l'égide de la mère supérieure Agnès Arnaud. À partir de 1654, il participe à la décoration du palais des Tuileries, aujourd'hui disparu. Mais cette fois sous la direction de Charles Lebrun, autre grand peintre et décorateur du roi. Il est nommé professeur en 1655 et il meurt 20 ans après, quasiment, en 1674, à Paris. Il a été influencé par Rubens au début de sa carrière. Son style devient de plus en plus austère. Il travaille facilement, quoique avec assiduité. C'est un peintre donc classique. Ses œuvres sont essentiellement religieuses et il reste un peintre exceptionnel par l'éclat de ses coloris et la rigueur de ses compositions. Alors, Anne-Marie, vous allez nous parler d'un tableau qui se trouvait à l'abbaye Port-Royal des Champs.
D'accord.
Et qui maintenant se trouve
au musée du Louvre. Oui.
Voilà.
Depuis 1793, c'est-à-dire au moment où la Révolution a institué le musée du Louvre, ce tableau a été repris. Il se trouvait à Paris, à l'église de Port-Royal de Paris. C'est un très grand tableau. Il fait 1,58 m. De hauteur sur 2,33 m. Donc pratiquement, on peut considérer que les personnages doivent être presque en grandeur nature. Hein. Il est daté de 1662, c'est-à-dire le début du règne de Louis XIV. Donc ce tableau illustre un passage d'évangile, là, sur la scène, le passage d'évangile de l'évangile de Marc, que je souhaiterais lire, qui est assez court. Hein. Alors, c'est le soir de la scène, Jésus a demandé à ses disciples de trouver une salle pour préparer le repas pascal. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont dans une salle qui a été indiquée donc par Jésus. Et sur le tableau, on le voit, hein, c'est une grande... Le tableau est assez sombre, il n'y a pas de décor intérieur. Hein, c'est simplement la scène, c'est-à-dire une grande table avec les 12 apôtres autour. Hein, ils sont bien 12. Il y a une petite fenêtre sur le côté qui donne un peu de lumière. Mais donc, c'est la représentation véritablement de tout ce qu'il y a de plus. Vous avez parlé de l'austérité de Philippe de Champaigne et de sa rigueur. Ben ça l'illustre bien parce qu'il y a uniquement l'essentiel. C'est-à-dire le Christ, les apôtres, le pain et le vin. Et dans l'évangile de Marc, le voici. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes et lui demandaient l'un après l'autre « Serait-ce moi ?» Il leur répondit « C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui qui le livre, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Puis prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, ils en burent tous, il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude ». Donc dans le tableau, c'est exactement cela. Au centre, nous avons le Christ, habillé de rose et de bleu, les bleus de, particulièement lumineux, bien sûr. Hein, les bleus de Philippe de Champaigne sont très, très connus, peut-être même avant le bleu Klein, puisqu'on parlait du bleu de Philippe de Champaigne. Donc le Christ a un visage tout à fait régulier, une barbe, des cheveux bouclés, et il bénit. Il a dans sa main du pain. Du pain. Et il bénit donc ce pain en regardant vers le haut, dans l'attitude de la bénédiction classique. Donc,
oui, il appelle le Père à bénir le pain.
Voilà, il appelle le Père à bénir le pain. Donc c'est exactement ce qui est dit. Hein. Jésus prit du pain, prononça la bénédiction et le rompit. Bon. À côté, nous avons un verre, enfin non, c'est une coupe qui symbolise évidemment le vin. Et devant la table, nous avons les guerres. Alors, cette grande table, elle est très allongée, puisqu'il y a quand même 12 personnes autour.
Elle est rectangulaire.
Est rectangulaire et elle est couverte d'une nappe blanche.
Oui, magnifique, nappe blanche.
Magnifique nappe blanche. Et c'est cette nappe qui donne toute la luminosité au tableau.
Elle a été bien repassée.
Voilà.
Et en bien
plus,
pliée.
Exactement. Elle est pliée et on voit tous les plis. Ça fait comme des carrés et ça donne comme une espèce de camailleux. Ça donne du vivant au
oui.
tableau. Hein. Si ça avait été juste une nappe blanche et uniforme, je pense que ça aurait manqué de relief. Or là, nous avons quelque chose qui éclaire le tableau oui. et qui en même temps le fait bouger. Hein, fait le...
Et je signale aux auditeurs que si vous pouvez vous rapprocher avec un zoom de cette nappe, vous verrez que c'est une prouesse technique, puisqu'il n'y a pas que du blanc.
Il y a aussi du bleu, il y a
du gris,
y a du reflet, oui.
Il y a
oui.
du rouge même,
ouais,
hein, il y a du jaune.
Tout à fait.
Ce sont des petits coups de pinceau.
Non, mais ça, c'est la...
C'est magnifique.
C'est la maîtrise exceptionnelle de Philippe de Champaigne. Et autour, nous avons tous les apôtres. Et alors, nous sommes justement au moment où le Christ a dit, ou quelques minutes après, l'un de vous va me livrer. Parce que nous avons tous ces hommes qui sont sur leur garde, qui se regardent, qui se montrent du doigt, qui s'interrogent, qui se parlent. Il y a une intensité et une vitalité dans le tableau extraordinaire. Alors, le Christ est entouré d'une part à droite, toujours pareil, de Saint Jean, un Saint Jean qui est représenté comme un homme jeune, beau, avec des boucles, et qui paraît très étonné, qui a une espèce de recul en se disant « mais qu'est-ce qu'il veut dire ?» Il me semble, enfin,
oui.
il paraît très étonné des paroles du Christ. Et sur sa gauche, nous avons apparemment sur la tête Saint-Pierre, je pense.
Oui, qui pour une fois n'est pas à cheveux blancs.
Voilà, et ça c'est très intéressant, parce qu'au moins il est comme un homme dans sa pleine maturité, il a des cheveux bruns, il a une barbe, il est un peu chauve certes, mais au moins il correspond vraiment à ce qu'était Saint-Pierre, c'est-à-dire un homme fort, en pleine...
En force de l'âge.
En force de l'âge, bon, un pêcheur. Alors lui est habillé de bleu. Il a la main sur la poitrine et il regarde le Christ. Il dit ça, mais est-ce que c'est moi encore? Voilà, il s'interroge. Derrière, c'est pareil. Nous avons trois ou quatre têtes que l'on voit d'apôtres, pareil, qui sont là. Il y en a un qui a la main sur le menton, très interrogatif. Un autre qui montre du doigt. De l'autre côté, c'est la même chose. Nous avons aussi les autres apôtres qui se discutent, qui s'interrogent, qui se montrent. Donc, ils sont dans l'interrogation et dans le choc de cette parole du Christ. Mm-hmm. L'un de nous va me livrer.
Oui, ils se regardent les uns
voilà,
les autres.
Ils se regardent les uns les autres, sont presque à s'accuser. Bon, voilà. Et ce qui est intéressant, alors, tout le tableau, c'est qu'il y a deux personnages qui sont devant la table. Alors, sur la gauche, l'extrême droite, nous avons un personnage qui est assis donc, sur une sellette devant la table, qui est dans un mouvement presque, on dirait qu'il va se lever.
Oui,
il a une superbe cape rouge, rose, enfin, alors je ne vous dis pas les plis, enfin,
verrez, c'est un travail magnifique.
Vous verrez le travail, n'est-ce pas, des draperies, bon, tout à fait plus que classiques, bien sûr, mais remarquables. Et cet homme, c'est pareil. Bon, on ne voit pas sa tête, il est de dos, il va se lever. Lui aussi, il est dans l'interrogation. Mais sur l'extrême gauche, il y a un autre homme. Et cet homme-là, lui, il est très calme.
Oui.
Il ne s'interroge pas. Il regarde le Christ. Mmh.
Il est légèrement tourné vers nous. Quand
il
même.
Il est un peu légèrement. Il est de, quand même, il est de profil. Il est de profil. On voit son profil. C'est un homme assez osseux, aussi dans la force de l'âge, habillé d'une tunique bleu ciel, une draperie aussi ocre qu'il a sur les épaules. C'est un homme assez fort. Il a des. On voit le travail de sa musculature. Là,
oui, il est musclé.
Il est musclé, ses mollets. Enfin, parce que les pieds, les mains aussi sont parfaits dans leur. Dans la façon dont c'est dessiné. Et il tient surtout à la main une bourse.
Et oui.
C'est Judas. C'est Judas et... Alors, cette bourse, est-ce que c'est déjà le prix de la trahison? Est-ce que c'est, comme il était trésorier des disciples...
Est-ce qu'il a déjà trahi ou pas?
Voilà.
Voilà.
Question qu'on en se pose.
Dans un autre évangile ou dans celui-ci, celui qui va me trahir.
Oui.
Donc, c'est peut-être pas encore fait, la trahison. Mais il le pense. Par contre, c'est la représentation qu'en iconographie, on retrouve partout. Donc, c'est l'attribut de Judas.
De Judas, la bourse, évidemment, oui.
Voilà. Donc, pour Philippe de Champagne qui connaît l'histoire, et pour les spectateurs qui vont regarder son tableau, tout le monde connaît l'histoire. Donc, on sait que c'est Judas qui a trahi, et c'est pour le désigner sur le tableau qu'on lui met la bourse dans les mains.
Et l'évangile de Marc, j'ai dit, en effet, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Oui,
voilà.
Alors va me livrer. Ouais. Est-ce qu'il a déjà contacté les prêtres? Est-ce qu'il a déjà reçu le paiement? Est-ce que c'est en cours? Voilà.
Bon. Enfin, il a la bourse dans les mains.
La bourse est dans les mains, donc c'est Judas. Et c'est lui qui regarde le Christ de façon...
Ferme quand même.
Oui,
il est décidé à le faire, il est décidé à trahir.
Oui.
Mais ils ne le montrent pas plus que ça, parce que les autres s'interrogent, donc ils n'ont pas compris que c'était Judas.
Tout à fait. Personne ne semble personne ne le désigne.
Personne.
Personne ne le désigne.
Et lui, Judas, regarde Jésus.
Bon, voilà donc, je pense que c'est une excellente interprétation hein, de l'évangile et
de la scène
oui. Et de la question qui a été posée aux apôtres et en même temps, évidemment, de la consécration du pain et du vin et de l'institution de l'Eucharistie.
Et c'est par les couleurs, je pense, que ce tableau est très attirant et qu'on a envie de l'analyser.
Ah oui, il est magnifique. Moi, je sais que quand je l'ai vu, ça s'appelle la grande scène.
Parce que la table est très longue.
Oui. Oui, et puis bon, la dimension du tableau aussi, parce que je crois que Philippe de Champaigne en a fait aussi une version plus petite qui était destinée à un particulier, tandis que cette version était destinée à l'église donc de Port-Royal des Champs.
Et tous les visages sont vraiment...
Et alors, tous les visages sont différents. Ils sont... Tous différents, oui. Tous très expressifs. Voilà, c'est une prouesse quand même, c'est une prouesse technique. Bon, c'est la grande époque classique quand même.
Oui, absolument.
C'est la grande époque classique. Hein,
la effet. Deuxième partie du XVIIe siècle. Et voilà, donc il a été peintre du roi, on comprend pourquoi, vu son talent.
Alors, il s'est rapproché des jansénistes, vous l'avez dit. Et il était le peintre de Port-Royal. Et c'est en ça que bon, on retrouve peut-être cette austérité et cette rigueur dans ses compositions.
Oui, parce que le fond est très sombre, à part cette fenêtre à droite qui est à peine éclairée. Mais on n'est pas distrait par ce qu'il y a derrière.
Non.
Hein, on ne peut pas.
Non, c'est l'essentiel, comme je dis, l'essentiel.
Et cette aiguière qui est devant la nappe est magnifiquement peinte aussi avec un reflet. Le reflet de la...
Oui.
Parce que la lumière vient un peu de droite, mais pas forcément de la fenêtre que l'on voit. Ça vient peut-être de la droite.
La lumière, elle vient des personnages,
oui,
presque.
Aussi.
Elle
oui,
vient presque
surtout
des
de
personnages,
Jésus.
Surtout du Christ, oui. Qui est, lui, particulièrement éclairé et mis en valeur au milieu.
Est-ce que vous voulez encore dire autre chose, Anne-Marie?
Je ne vois pas. Tellement voilà. De choses à dire, d'autres.
Bon, sinon,
vous avez retracé toute l'histoire de Philippe de Champaigne.
Voilà, qui donc, était un peintre voilà. important.
Oui, du XVIIe siècle, c'est le plus grand peintre. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il est à l'origine un petit peu de la fondation de l'Académie des Beaux-Arts. Comme Richelieu avait créé l'Académie française, il a créé aussi l'Académie des Beaux-Arts, donc pour la peinture et la sculpture. Et Philippe de Champaigne a été un enseignant, et un enseignant très assidu. Et on a toujours actuellement des conférences de Philippe de Champaigne, il paraît.
Voilà. Ah oui.
Oui. Donc ce qui est assez émouvant.
Il devait
quand
être
même.
Exigeant, parce que vu la façon dont il peignait, il devait être très exigeant vis-à-vis de ses élèves.
Ben, c'est quand même un flamand à la base.
Mm-hmm. Oui.
Et donc,
oui.
On retrouve cette chaleur quand même.
Oui, oui.
Dans austérité, mais chaleur quand
oui,
même.
Oui, dans les couleurs.
Couleurs, voilà.
Savoir utiliser la couleur et harmoniser les couleurs. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Anne-Marie pour ce commentaire de la scène par Philippe de Champaigne. Merci à Emmanuel qui tenait les manettes de la technique. Merci à vous tous, amis auditeurs. Vous pouvez continuer à nous écouter en podcast sur Radio Présence Cahors, à la rubrique Les Arts Sacrés. Ne quittez pas votre antenne, le programme se poursuit. Quant à cette émission, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même lieu, même heure. Au revoir.
Arts Sacrés. Arts Sacrés, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.